Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, Escale s'intéresse au cadre juridique multilatéral que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'établir pour la restructuration de la dette souveraine. Et pour nous en parler, Christina Silvero a rencontré Chantal Lynn Carpentier, chef du bureau de liaison à New York de la CNUSED, entendez la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Chantal Lynn Carpentier, bonjour.
Bonjour.
L'Assemblée générale de l'ONU a récemment adopté une résolution sur l'établissement d'un cadre juridique international et multilatéral pour la restructuration de la dette souveraine. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est que la dette souveraine?
En principe, c'est un peu comme une dette que vous et moi pouvons avoir. On va acheter une voiture, on va acheter une maison, on va emprunter. Les gouvernements font la même chose pour investir dans la santé, dans l'infrastructure ou d'autres secteurs. Et une partie de cette dette, ils empruntent des gouvernements, une partie, ils empruntent du secteur privé. Et donc, c'est une dette que les gouvernements souverains ont envers tierces parties.
Alors, pourquoi est-ce que le groupe des 77 a cherché à établir justement ou à faire passer cette résolution sur la restructuration de la dette souveraine?
Oui, parce que, en fait, dépendant de qui on parle, ça peut créer... Il n'y a pas de cadre juridique présentement et la décision ou la manière de restructurer une dette une fois qu'on n'est plus capable de payer, et en passant, un pays ne peut pas faire faillite. Nous, on peut faire faillite et c'est la manière de régler, à la limite, nos problèmes financiers. Par contre, un pays ne peut pas faire faillite. Et donc, l'idée est de savoir, bon, maintenant, j'arrive plus à rencontrer les prêts que j'ai, ce que j'ai à repayer. Je vais m'asseoir avec tous mes créanciers et essayer de me mettre d'accord avec eux pour savoir est-ce qu'on pourrait décoter et à ce moment-là, je vais être capable de les repayer tous. À ce moment-ci, on n'a pas de système. Alors, là, dans le cas de l'Argentine, qui a été un peu le culpite pour ça, l'Argentine doit s'asseoir avec chacun des financiers, chacune des banques, chacun des fonds qui leur ont passé de l'argent un par un. Et le cadre dans lequel cette restructuration peut être faite dépend de où cette banque est située et dans quel cadre juridique c'est soumis. Est-ce que c'est le cadre, la loi américaine? Est-ce que c'est la loi de Londres? Est-ce que c'est la loi de Singapour? Et donc, c'est super compliqué parce qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas un cadre juridique et on doit le faire avec chacun des créanciers.
Et pour fixer les taux et le rythme de remboursement, est-ce que c'est, puisque c'est avec, par exemple, le privé, est-ce qu'il y a une façon de faire qui est structurée ou c'est complètement aléatoire? Les pays se retrouvent vulnérables aux différents produits financiers innovateurs?
On a entendu parler beaucoup dernièrement de les credit rating agencies, les agences de crédit ou de cotation. Et donc, elles donnent une cote au gouvernement pour à savoir leur capacité de repayer. Et plus que ta cote, elle est mauvaise, et plus ça coûte cher, plus tu payes d'intérêt sur tes prêts. Et donc, chacun des pays doit, en fonction de qui on a emprunté, de notre cote de repaiement qu'on a été donné. Et donc, on est soumis à plein de critères et de mécanismes qui sont différents. Et c'est pas relié dans un endroit comme à l'ONU ou à un cadre juridique comme l'OMC ou le FMI. C'est vraiment dispersé.
Alors, cette résolution cherche en fait à établir un seul cadre juridique international auquel seraient même soumis les différents créanciers?
C'est un cadre auquel le secteur privé, donc les financiers, doivent être à table parce que eux, on ne veut pas aussi mettre les conditions telles que le secteur financier ne passera plus d'argent. Parce que si on n'est pas sûr qu'on va se faire repayer, à la limite, les taux d'intérêt seront super élevés ou on ne passera plus d'argent. On ferme le robinet. Alors, on ne veut pas ça.
Qu'est-ce qu'elle cherche à faire, en fait, cette résolution?
Cette résolution cherche à établir un cadre qui serait le même pour tous et où il y aurait un système pour ramener toutes les parties prenantes à la table avec un mécanisme qui serait établi préalablement et que ce serait clair quelles sont les étapes et comment on doit procéder pour arriver à un accord. Je vous donne l'exemple de l'Argentine. Quand ils ont fait défaut sur leur dette, qu'ils n'arrivaient plus à en payer en 2001, ils ont fait une restructuration. Ils se sont mis à la table avec tous les créanciers en 2005 et en 2010. On a décoté. C'est-à-dire que si vous m'aviez passé 10 $, je dis, ben écoute, Stéphanie, je ne peux pas vraiment vous repayer maintenant, mais je peux te repayer 5 $. Si on se met d'accord, et en plus, je vais avoir des bonus sur le côté qu'on pourrait se mettre d'accord. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des créditeurs qui, eux, ont dit, non, Moi, je le fais pas. 93% des créditeurs se sont mis d'accord. Ils ont fait une décotation. Ils se sont dit, OK, parfait. Et depuis, l'Argentine les a payés. Il y a certains créanciers qui ont été appelés dans les médias, les fonds vautours, qui, eux, ont dit, non, nous, on veut être repayés à 100%. Eux, ils avaient racheté. Quand la négociation était en cours, il y a une décotation et eux, ils avaient acheté, dans ce cas-ci, à peu près à 20 sous du dollar, la dette qui est de d'autres créanciers. Et la raison que c'est polémique, c'est que eux, ils rachètent à prix plus bas et après, ils vont dans la cour pour avoir une résolution de la cour qui dit qu'elles doivent être payées à 100% plus intérêt. Le problème que certains pays, que l'Argentine et d'autres économistes aussi ont mis de l'avant, et la CNUSED d'ailleurs, c'est que le problème avec la décision de la cour présentement, c'est la cour a décidé que oui, ce fonds qui avait résisté à la restructuration, que les médias ont appelé fonds vautours et plusieurs autres, plusieurs pays membres, et on leur a donné raison. Et on a dit l'Argentine doit les repayer et payer les intérêts. Alors, on pense à ça rapidement. Quel est l'incitatif que ça donne aux autres créditeurs? Dans le futur, ça veut dire que les créditeurs vont dire, ben non, moi, je veux pas me mettre d'accord pour une décotation, je vais attendre parce que je sais que la Cour va me donner raison, je veux 100%. Et ce que les pays membres disent, c'est que nous, si on repaie à 100% en ce moment ici, on n'est plus capable de donner les services sociaux, économiques, environnementaux, tous les services de base que le gouvernement paie à partir de son revenu, ils ne sont plus capables de les donner. Et à ce moment-là, ils sont obligés de faire des coupures immenses dans le système de santé, dans le système d'éducation. Et
alors que souvent, on parle de pays en développement.
Oui, ce sont des pays en voie de développement qui ont souvent emprunté pour être capables de développer ces secteurs. Et puis qui se retrouvent maintenant à dire, ben écoutez, on ne peut pas donner ces services de base à nos citoyens parce qu'au contraire, il faut rediriger ces sous vers le repaiement de la dette.
Plusieurs pays ont quand même soulevé quelques préoccupations par rapport à cette résolution, notamment par rapport à l'impact sur les marchés financiers ou encore une critique parce que d'autres organisations, à savoir le FMI par exemple, sont en train, ou la Banque mondiale aussi je crois, sont en train d'investiguer ou de développer d'autres mécanismes.
Oui, effectivement. En fait, des 133 pays du G77 et de la Chine, tous ceux qui étaient présents ont voté en faveur de la résolution. Il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas là parce qu'ils revenaient de la conférence des CIDS à Samoa. Il y a eu 11 votes contre, dont l'Australie, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et ces pays sont, comme vous l'avez dit, inquiets de l'impact sur le marché financier, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on va réduire, si on met un cadre juridique, est-ce qu'on va éliminer l'incitatif du secteur financier de donner des prêts au gouvernement? Et c'est pour ça qu'il faut avoir une balance.
Est-ce que c'est vraiment une question de réduire les incitatifs ou réduire les incitatifs, c'est aussi réduire leur marge de profit, en fait?
Exactement. Et donc, atteindre un équilibre où est-ce qu'on ne veut pas augmenter le risque tel que les taux d'intérêt seraient tellement élevés que de toute façon, on n'emprunterait plus. En même temps, ça prend une certaine protection pour les pays en voie de développement et même d'autres pays. On s'entend que la Grèce a aussi passé à travers une restructuration majeure. La raison que la Grèce a réussi à s'en sortir, c'est que leurs prêts étaient plus récents et il y a une nouvelle clause qu'on met maintenant dans ces prêts qui s'appelle la clause sur le collective action. Et donc, c'est-à-dire que ça ne permet pas à certains fonds de se retirer, de résister une restructuration. Par contre, il y a beaucoup de ces fonds qui ont été faits avant et il y a beaucoup de ces fonds ces prêts qui ont été faits qui n'ont pas cette clause. Et donc, ce n'est pas juste un problème des pays en voie de développement. Ils sont plus affectés, leurs citoyens sont plus affectés parce que leurs revenus sont moindres si on redirige une large partie de leurs revenus vers le paiement de la dette. Mais il y a des pays en développement qui se sont abstenus, tels la France, tels l'Autriche, la Belgique, l'Italie, la Norvège, qui, eux, ne sont pas pour ou contre, mais ils veulent voir quelle serait la route qu'on pourrait prendre. Ils sont prêts à avoir une discussion ou un dialogue à l'ONU vers ça. Votre deuxième question était de savoir le FMI. Donc, beaucoup des pays ont dit oui, mais l'ONU, ce n'est pas l'endroit où faire ce genre de travail. On a déjà des institutions qui le font. Beaucoup des parties prenantes disent, oui, c'est vrai que le FMI a fait du travail. Par contre, le FMI n'est pas une organisation universelle comme l'ONU, où tous les pays sont membres. Deuxièmement, ce n'est pas non plus une organisation démocratique telle l'ONU. Comme on le sait tous, l'ONU, c'est une voix, un pays, une voix, un vote.
En tout cas, à l'Assemblée générale.
À l'Assemblée générale, alors qu'au FMI, le vote ou la voix est en fonction de la capacité à payer. Et donc, la voix des pays est, vous le savez peut-être, que ça fait longtemps que les pays en voie de développement essaient d'avoir une restructuration de la gouvernance du FMI à cause de ça. Et le troisième argument qui est donné, pourquoi l'ONU? Parce que l'ONU n'a pas de conflit d'intérêts. On ne fait pas de prêts. Alors que les FMI, ce sont eux qui font les prêts, c'est que de me dire, ce sont le même qui fait le prêt, qui vont donner les critères et le mécanisme. Alors, ce que la CNUSED a fait avec nos collaborateurs, incluant le DESA et puis le FMI, entre autres, c'est de développer un mécanisme. C'est pas nécessairement juridique ou légal ou obligatoire, mais qui amènerait toutes les parties prenantes.
Alors, en quoi consiste ce nouveau mécanisme qui a été développé?
En fait, il part de 7 principes qui doivent être retenus pour les conflits d'intérêts, pour des principes qui sont un peu compliqués, que je ne vais pas aller en détail, mais qui sont présentés le 10 octobre prochain. Nous avons aussi une session jointe entre l'Assemblée générale et COSOC le 14 octobre aussi, où les pays membres vont amener et encore discuter cet item qui est très, très controversé, vous pouvez l'imaginer. Et nous avons aussi une résolution à l'ONU à toutes les ans sur la dette. Ça fait des années qu'on a une résolution qui dit que, en fait, les pays devraient être repayés, protégés, oui, les créanciers, mais d'un autre côté, les pays ne devraient pas être contraints à payer au-delà de leur capacité à payer.
Alors, prochaine étape de ce lancement de ce mécanisme?
La prochaine étape dans la résolution qui a été faite vraiment à la dernière minute, qui était une des contentieux, c'est que maintenant, le G77 et Chine doivent développer des modalités. Comment est-ce que les pays vont se mettre ensemble pour mettre de l'avant le cadre? Comment on va le négocier, si vous voulez? Et ça doit être fait d'ici décembre. Et à partir de décembre, janvier, commencer les négociations. À l'ONU, bien entendu, quand on a des négociations, il y a des coûts. Parce que les pays, souvent, les experts viennent des capitales et donc il y a des coûts. Alors, une fois qu'on aura la modalité, ça doit être passé par le 5e comité qui doit déterminer si on a le financement pour supporter les négociations. Et un coup que ce sera fait, dès début 2015, les négociations devraient commencer.
Alors, quel est le rapport entre le mécanisme que la CNUSED a développé avec ses partenaires et cette résolution et les négociations à venir?
Il y a des discussions qui ont eu entre nos experts à Genève et les supporters de cette résolution. Bien entendu, on parle d'inclure ces principes que je vous ai dit qui étaient la base du mécanisme dans cette résolution et ces négociations. Et nous, on supporte la CNUSED, on supporte les pays, tous les pays en fait, parce qu'on a tous les pays sont membres de la CNUSED. Mais bien entendu, on supporte plus les pays en développement qui ont plus besoin d'une capacité. Alors, s'ils nous demandent plus d'informations, s'ils ont besoin de support, c'est sûr qu'on va les supporter à partir de ce mécanisme.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, et c'est avec Chantal Lynn Carpentier de la CNUSED que se referme Escale, un magazine consacré cette semaine à la décision de l'Assemblée générale d'établir un nouveau cadre juridique multilatéral sur la restructuration de la dette souveraine. Un magazine présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Christina Silvero et de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur Internet tous nos programmes en tapant radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.